Phare FM Haguenau.
Phare FM Haguenau, 92.5.
Aujourd'hui, Phare FM Haguenau-Wissembourg reçoit Noémie. Noémie est maman d'un petit garçon de 4 ans et elle fait l'école à la maison. Et justement, l'instruction en famille, on en parle dans notre séquence Rencontre solidaire. Alors qu'il est question actuellement de supprimer cette possibilité d'instruire les enfants à la maison. Noémie, bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse vous présenter.
Oui, donc c'est Noémie, je suis mariée et maman d'un petit garçon de 4 ans.
Noémie, vous êtes venue nous parler de l'instruction en famille ainsi que de l'association Les Enfants d'abord. L'instruction en famille, qu'est-ce que ça représente ?
Alors l'instruction en famille, c'est un droit déjà, mais c'est simplement instruire son enfant en famille au lieu de le mettre dans une structure scolaire. Et Les Enfants d'abord, c'est une des associations desquelles je fais partie en fait, qui défend ce droit et qui donne aussi des clés, des sources pour bien vivre l'instruction en famille. Et voilà.
Noémie, qu'est-ce qui vous a poussé à faire l'instruction en famille et à faire partie de cette association Les Enfants d'abord ?
Alors en fait, notre fils était à l'école pendant 5 mois et ça a été une catastrophe, vraiment. Donc c'était cauchemar, c'était crise, ça n'en finissait plus. On avait déjà pensé à l'instruction en famille avant, mais on ne s'en sentait pas forcément capable. On a préféré le mettre à l'école. Et finalement, au bout d'un moment, on a dit « c'est plus possible, notre vie de famille, ça ne va pas du tout ». Donc on a choisi en février dernier de faire l'instruction en famille. Et là, ça a été vraiment le déclic. Pour notre vie de famille, ça a été bien plus agréable et notre fils a évolué de façon très positive. Et aussi, on s'est inscrit à l'EDA pour avoir en fait toutes les ressources de comment ça se passe. Parce qu'en fait, l'instruction en famille est contrôlée et encadrée. Et du coup, c'était pour avoir conscience vraiment du cadre légal et des démarches à faire. Et avoir le soutien et un réseau aussi d'autres parents avec lesquels échanger.
Pour pouvoir enseigner à la maison, qu'est-ce qu'il faut comme compétences ?
Eh bien, rien du tout. En fait, c'est vraiment une idée reçue, ça. Donc c'est aussi pour ça que je dis que l'instruction est un droit et on veut vraiment pas que ça devienne, un droit si on a certaines compétences. Parce que les parents, à partir du moment où ils sont impliqués, et on va trouver les ressources. Donc on va pas être les seuls à instruire nos enfants. Ça veut dire que, par exemple, mon fils, il aime bien la musique. Moi, j'ai pas ses compétences, je sais que je peux aller chercher. Et petit à petit, je vais lui apprendre aussi, ou je vais lui montrer comment faire et tout seul, il va réussir. Et une des choses que j'ai vraiment apprises, en fait, c'était les apprentissages autonomes. Ça, il y a plein de références, plein de livres dessus. Et en fait, à partir du moment où on allait dans cette voie de laisser notre fils faire comme il en avait envie, il a progressé d'une manière extraordinaire, en fait. C'était vraiment une révélation. Donc, de dire qu'en fait, on n'a pas besoin de faire autant que ce qu'on pense. Il faut vraiment accompagner, en fait, et être présent et être prêt à faire les démarches, surtout quand ils sont petits, pour aller chercher les choses qui sont hors de notre compétence.
Quand on fait l'école à la maison, il y a, je pense, quand même un programme qu'il faut suivre durant l'année scolaire.
Il y a une obligation. Alors, si je ne me trompe pas, il faudrait voir exactement tous les trucs, mais il y a une obligation de moyens, mais les pédagogies sont libres, en fait. Donc, c'est-à-dire, on choisit la pédagogie qu'on veut. Donc, peu importe comment on va apprendre à lire, et puis si c'est pas forcément à 6 ans pile, etc., peu importe comment on va apprendre les différentes choses à savoir, en fait. Donc, la pédagogie est libre, et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas besoin forcément de cahiers, de choses comme ça, mais l'enfant est naturellement curieux. Et du coup, les choses s'apprennent sans que ce soit formel, souvent, et sans qu'on s'en rende compte, en fait. Et c'est ça qui est bien. Mmh. Et du coup, après, voilà, s'il y a des choses à ajuster, à voir, parce que l'enfant ne s'y intéresse pas forcément à ce moment, on peut toujours essayer d'initier le truc, quoi. Mais,
ouais. D'accord. Mais même quand on fait l'école à la maison, il y a des inspections, je pense.
En fait, les inspections commencent dès 3 ans maintenant. L'instruction est obligatoire depuis l'an dernier à partir de 3 ans. Donc, dès le début, il y a une enquête de mairie donc pour voir les raisons de l'instruction en famille, pour voir si l'enfant, s'il est bien traité, etc. Donc voilà, l'enquête de mairie tous les 2 ans et l'enquête de l'inspection académique tous les ans, donc avec un inspecteur et un conseiller pédagogique. Et eux viennent voir les acquisitions de l'enfant et surtout ce qui est mis en place en fait pour ces acquisitions. Donc ça veut dire que c'est vraiment contrôlé en fait chaque année.
Un contrôle strict.
Ben alors, du coup, comme j'avais dit, il y a la mairie qui vient une fois tous les deux ans. Elle transmet son rapport à l'inspection académique. Quand l'inspecteur et le conseiller pédagogique viennent, ils font aussi un rapport. Si le rapport n'est pas bon, mais que voilà, il n'y a pas de danger pour l'enfant, etc., ils attendent à des améliorations, en tout cas qu'on mette des choses en place pour des améliorations pour l'année d'après. Et si ce n'est pas le cas, il y a une injonction de remettre l'enfant à l'école sous les 15 jours. Donc c'est, oui, d'accord, c'est vraiment... Et s'il y a un problème grave, il y a, bah, y a moyen de faire en sorte de remettre l'enfant à l'école aussi très vite ou de signaler en fait le cas. Donc oui, c'est très encadré déjà. Et du coup, il faut aussi savoir que depuis la loi de l'école de la confiance de M. Blanquer l'an dernier, du coup, donc l'école, l'instruction est obligatoire à partir de 3 ans. Donc les contrôles commencent maintenant à 3 ans. Mais il y a aussi l'autorisation, enfin les inspecteurs peuvent aussi venir en fait de manière, comment dire, impromptue, enfin ils peuvent venir n'importe quand, donc vérifier. Donc il y a aussi vraiment moyen de voir d'éventuels cas de radicalisation ou d'autres problèmes comme ça.
Quel est le rôle de l'association Les Enfants d'abord ?
En fait, Les Enfants d'abord, c'est simplement pour nous expliquer le cadre, c'est vraiment pour aider en fait dans les éventuelles démarches, les éventuels problèmes, questionnements et avoir un réseau en fait pour voilà aussi des rencontres, des choses comme ça.
Donc je suppose que vous avez des contacts avec d'autres parents qui font la même chose, l'instruction à la maison.
Ouais, on a un réseau, on se contacte. Ben, c'était surtout via les réseaux sociaux ou l'association pour faire des rencontres, faire des sorties ensemble, pour que les enfants puissent se voir, voilà, toutes sortes de choses intéressantes.
Oui, justement, j'avais une question aussi à ce sujet. Est-ce qu'on ne met pas l'enfant un peu à l'écart de la société ?
En fait, beaucoup croient que la socialisation se passe à l'école uniquement. Mais en fait, à l'école, on comprend, on voit bien que c'est des enfants du même âge, dans une même classe, voilà. Alors que on privilégie, on voit des personnes d'âge plus large, on voit en fait la vraie vie. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui restent chez eux cloîtrés, mais franchement, de ceux que je connais, la plupart, on sort régulièrement, on va à toutes sortes d'activités ou de rencontres. Donc l'enfant a vraiment la possibilité d'interagir avec des gens en fait, de tout âge. Et souvent aussi, c'est des enfants qui font pas mal de sport ou de musique, des choses comme ça, voilà.
Un enfant qui a été enseigné à la maison et qui soudain a envie de changement, d'aller plutôt dans une structure scolaire, je vais dire normale, est-ce que ça peut poser des problèmes ? Est-ce que ça peut engendrer des complications chez lui ?
Ben, en fait, les études montrent que non. La plupart du temps, non. Parce que c'est souvent des enfants dont le rythme a été respecté, dont... des enfants qui sont plutôt sûrs d'eux, qui s'adaptent bien. Donc il y a sûrement un petit temps d'adaptation, mais il y a vraiment aussi des livres à ce sujet, dont un livre qui s'appelle « Libre pour apprendre » de Peter Gray, et en fait qui dit qu'à partir du moment où l'enfant, ça vient de lui, il a envie, par exemple même pour les études supérieures, d'aller dans un cursus spécial, il arrive sans difficulté à correspondre en fait aux attentes données et à rattraper l'éventuel retard sur telle ou telle matière qu'il n'aurait pas fait à fond quoi avant.
Et si au bout d'un moment, par exemple, les parents ne suivent plus ?
Ben, en fait, dans l'instruction en famille, il y a autant de modes, enfin de façons de faire que de parents, que de familles, parce que même dans une famille, il peut y avoir plusieurs types. Donc, il y a parfois des enfants qui sont instruits en famille, des enfants à l'école. Parfois, il y a des enfants qui sont au CNED, donc réglementés, donc c'est le même programme que l'école. Et d'autres, il y a d'autres cours plus alternatifs qu'on peut soit acheter ou s'abonner à certains cours, soit on cherche nous-mêmes. Et à partir du moment où les enfants ont pris en autonomie, quand ils sont plus grands, ils peuvent aussi eux-mêmes, en fait, simplement chercher les cours, suivre les cours. Ils sont assez autonomes, en fait, pour aller chercher aussi ce qu'il leur faut, en fait. Donc, en tout cas, en dehors de l'école éducation nationale, il y a soit le CNED, soit il y a plein d'autres ressources, en fait. Il y a largement de quoi faire.
Quelles peuvent être les différentes raisons, ce pourquoi les parents ne mettent pas les enfants à l'école ?
Alors... Donc là, lors de son discours, Emmanuel Macron avait parlé de 50 000 enfants, du coup, dont la moitié à peu près, qui, pour des raisons de santé, en fait, pouvaient pas aller à l'école. Donc ça, c'est une des premières raisons. Mais il faut savoir que dans les autres 25 000 ou au moins 25 000, il y a vraiment toutes sortes de raisons. Donc ça peut être vraiment des choix de mode de vie, de pédagogie alternative, de voilà simplement un autre choix de façon de faire. Ou aussi, ça arrive aussi de plus en plus fréquemment, on va dire, des enfants qui ont été victimes de harcèlement scolaire, des enfants qui ont été victimes de phobie scolaire. Et ben moi, mon fils, c'était ça, hein, clairement. Voilà, c'est au bout d'un moment, c'est une porte de sortie. Il faut aussi savoir que certains, ça fait une pause, donc certains le font juste une année pour avoir une année de répit, le temps que l'enfant reprenne confiance en lui, se répare un peu et revienne dans le circuit de l'école. D'autres le font parce que voilà, ça va dans le mode de vie, en fait. Il faut aussi rappeler aussi que par rapport aux chiffres qui ont augmenté, là, en ce moment aussi, avec la période de crise sanitaire, des familles soit ont préféré mettre leurs enfants, enfin garder leurs enfants pour des raisons de santé, de la famille et tout. Et aussi, certaines familles, pendant le confinement, ont simplement découvert l'instruction en famille. Des personnes ne connaissaient pas, pensaient que l'école était obligatoire. En fait, ça a été une révélation pour eux. Et ça, dans les associations, il y en a eu pas mal où ça a été simplement une révélation et ils ont voulu continuer.
Est-ce que ça ne donne pas l'impression qu'on veut un peu les mettre dans un cocon ?
Ben, mon avis, en fait. Et dans les témoignages que je vois, je pense que c'est assez important quand même de, on va dire, protéger les enfants et les aider à grandir dans un univers assez protégé, mais sans couper du monde. Et souvent, en fait, les enfants qui ont fait l'instruction en famille demandent à un moment donné aussi d'aller à l'école. Par exemple, donc, en fait, la confrontation au monde, etc., elle est de toute façon dans la vie de tous les jours. Mais ça arrivera et là, ils seront en capacité et d'encaisser et d'assumer qui ils sont. Et voilà, en général, c'est des enfants quand même assez qui ont de l'assurance et qui sont bien dans leur basket. Voilà, ça, c'est vraiment des études qui le montrent et ouais, des témoignages, voilà.
On le sait, le droit à l'école à la maison va être supprimé. Comment ça se passe ?
Alors, déjà, première chose, ce n'est pas encore acté. C'est un peu un problème parce que même dans les sites officiels du gouvernement, c'est signifié comme acté, en fait. C'est marqué, même dans le vademécum sur Eduscol, c'est marqué l'instruction sera interdite à la maison, voilà. Sauf que le projet de loi n'est pas encore présenté, n'est pas encore passé. Donc déjà, il faut dire, ok, c'est pas encore passé. Différentes associations d'instruction en famille, mais aussi d'autres autour, même des professeurs, des instituteurs, se mobilisent en fait pour, simplement pour dire qu'on n'est pas d'accord et que les arguments avancés par Emmanuel Macron nous semblent pas pertinents par rapport à la décision. En fait, que le remède n'est pas le bon parce que le diagnostic n'est pas le bon. Voilà.
Il pourrait y avoir des conséquences sur les enfants qui ont l'habitude d'être enseignés à la maison ?
Il pourrait y avoir des conséquences sur les enfants, clairement, notamment des enfants qui souffrent de phobie scolaire ou de ce genre de choses. Des enfants aussi pour qui le système maintenant n'est pas adapté parce qu'ils ont des troubles divers, parce que c'est des enfants atypiques, etc. Donc ça, pour l'instant, c'est très compliqué encore à gérer. Et aussi, ça remet en question vraiment un mode de vie de la famille. Ça vient chambouler le mode de vie tout entier de la famille, parce que souvent, il y a aussi le travail des parents qui peut aller avec, en tout cas l'entrepreneuriat, etc. Donc le mode de vie tout entier pourrait être chamboulé. Ouais.
Quel est l'avis des associations qui sont pour l'instruction à la maison par rapport à cette décision du gouvernement ?
Alors, je vais reprendre une phrase de Raphaël Liogier, qui est sociologue à l'IUP d'Aix-en-Provence, qui dit « Je crois que les mesures ne sont pas adaptées parce que le diagnostic est faux, estime-t-il. Ce sont avant tout des individus qui se trouvent dans une dérégulation sociale qui verse dans le terrorisme. Ils sont d'abord animés par un esprit de vengeance et se tournent dans un second temps vers l'islamisme pour passer à l'action. » Donc ça, c'est la première chose. En fait, l'instruction en famille, c'est déjà une minorité, donc c'est déjà même pas 1% de la population.
C'est 0,4%.
Voilà, et du coup, des cas de radicalisation, il y avait même un rapport du Sénat, en fait, sur l'islamisme et les cas de radicalisation, qui disait en fait qu'en fait, il y a eu beaucoup de signalements dans l'école, mais que dans l'instruction en famille, il n'y avait pas de cas spéciaux à rapporter, en tout cas. Donc, en fait, c'est aussi ça qui est bizarre, parce que dans le rapport du Sénat, dans le discours de M. Blanquer il y a quelques mois, l'instruction en famille était encore légitime. Et là, d'un coup, il y a un gros amalgame de faits, il y a, il y a des choses en fait qui nous paraissent pas claires et pas justes en fait par rapport au problème de fond. Aussi, alors ça c'est personnellement, mais je sais que beaucoup dans les associations quoi s'y retrouvent, que à force de restreindre en fait, l'effet attendu en fait sera probablement l'inverse finalement. Enfin, et du coup ça c'est aussi un peu inquiétant quoi.
Mm-hmm, oui, parce que je pense qu'on va entendre les parents et les associations bouger. Est-ce qu'il y a des propositions par rapport à ça?
Ouais. Alors sur le site de Les Enfants d'abord, il y a une page qui dit comment procéder pour aller voir les députés, etc. Donc ça, c'est une des actions. La première chose, c'est déjà de faire connaître l'instruction en famille en vrai. Donc parce que dans les médias, on nous parle beaucoup des 25 000 qui en ont besoin parce que pour des problèmes de santé. Mais dans les 25 000 autres, clairement, s'il y a de la radicalisation, c'est une minorité et on l'a trouvée nulle part en fait, dans les chiffres officiels. Juste, parenthèse, il faut savoir que l'école clandestine, par définition, elle n'est pas déclarée déjà. Donc faire connaître la réalité de l'instruction en famille et ensuite aller voir les députés, leur parler de l'instruction en famille, leur montrer aussi que là, c'est une atteinte à des libertés vraiment fondamentales. Il y a des textes dans la Constitution qui protègent ça. Donc voilà, en fait, le montrer, en parler, et puis essayer de sensibiliser les gens. D'autant plus qu'en fait, M. Blanquet, dans un de ses discours, a aussi dit qu'il est de plus en plus favorable à une vision globale de l'emploi du temps de l'enfant, donc le mercredi et le week-end aussi. Donc ça se passe aussi à l'école. Donc en fait, ça ne s'arrête pas là, l'empiètement sur nos libertés. C'est aussi de manière plus globale. Et aussi sensibiliser les gens au fait que ils font pas l'instruction en famille maintenant, mais si leurs enfants ont des problèmes à l'école, ont vraiment des phobies scolaires, des choses comme ça, ça va plus être possible en fait d'avoir cette porte de sortie. Et voilà, ça risque d'être problématique.
Est-ce qu'il y a des statistiques positives concernant les résultats pour les enfants qui font l'école à la maison?
Oui, oui, oui. Donc, sur le site de l'EDA aussi, il y a un document qui s'appelle « Mieux connaître l'instruction en famille ». Donc, il explique pas mal. Alors, du coup, il y a, par exemple, Alan Thomas, docteur en psychologie, qui a fait des études là-dessus. Le livre aussi de Peter Gray, donc « Libre pour apprendre », est excellent parce qu'il montre plein de références d'études, etc., qui montrent que les enfants s'en sortent vraiment bien avec l'instruction en famille, que les résultats sont bons. Il y a aussi le film de Clara Bellard, Être et devenir. Il y en a encore d'autres, mais Être et devenir, par exemple, il montre aussi que dans des grandes universités, genre Oxford, etc., ils aiment bien en fait, les profils d'instruction en famille, parce que c'est des gens, en général, qui sont là, parce qu'ils savent pourquoi ils sont là, en fait. Ils sont intéressés, ils s'adaptent très bien, ils ont un autre rapport aux professeurs, etc. Donc, en fait, si on veut avoir les ressources, on les trouve facilement soit sur les sites des associations, soit sur des films ou dans des livres, voilà.
Donc l'EDA, je le rappelle, c'est l'association Les Enfants d'abord. Et pour vous, Noémie, qui faites l'instruction à la maison, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez faire?
Ah bah, je vais me battre. On va essayer vraiment de pas laisser passer ça. Et ce qui est important aussi, c'est de dire que avec Jules Ferry, l'instruction était obligatoire, mais l'instruction en famille était possible. Donc ça fait depuis 1880 quelque chose, si je me trompe pas. Avant, il y avait une grande liberté, en fait, dans cette instruction en famille. Et petit à petit, notamment depuis 98, si je ne me trompe pas, les contrôles sont devenus obligatoires, mais au début, c'était seulement à 8, 10, 12 ans. Enfin, voilà, c'était beaucoup plus espacé, c'était plus tard, etc. Maintenant, ça se restreint de plus en plus. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment dire, voilà, la raison ne nous paraît pas du tout légitime. Donc, on veut pas de cette... Alors là, je parle pour moi, mais c'est en général, quand même, ça se retrouve dans les associations, de dire on ne veut pas de cette loi, mais on veut pas non plus qu'il y ait un droit à l'instruction en famille, en fait. Il faut savoir aussi que, par exemple, en instruction en famille, on touche pas à l'allocation de rentrée scolaire, etc. Donc, il y a déjà des choses qui sont de plus en plus restreintes, contrôlées, etc. Et en fait, voilà, si on choisit l'instruction en famille... C'est aussi pour faire surtout des modèles pédagogiques alternatifs. Donc, en fait, de devoir se conformer de plus en plus à ce qui est à l'éducation nationale, ça aurait plus de sens non plus. Donc, Donc voilà, on va se battre, on va essayer vraiment de faire connaître ça, le problème aussi, et puis de dire, bah voilà, c'est une liberté fondamentale, et même si on est une minorité à être concernée actuellement, c'est beaucoup plus large que ça en fait.
Actuellement, et vu la situation, il est beaucoup question de valeurs républicaines. Comment on met en pratique les valeurs républicaines quand on fait l'enseignement à la maison? Comment vous faites?
Ouais. Alors en fait, les valeurs républicaines, je pense vraiment qu'elles se vivent au quotidien, qu'elles ne doivent pas être imposées. On va dire que si on le vit et qu'on le comprend, elles vont venir naturellement. Donc le respect, l'ouverture aux autres, l'engagement. Je suis aussi engagée dans des associations et ça, mon fils le voit, il vient avec moi. L'entraide, la tolérance avec d'autres personnes, etc., les rencontres, donc, je pense qu'il y a largement, en fait, de quoi, pas forcément inculquer ces valeurs, mais les montrer, et l'enfant les verra et voudra les suivre, puisqu'elles sont bonnes.
Pour les parents, l'instruction en famille est quand même un engagement sérieux et à long terme qui demande beaucoup d'investissement.
Alors, il faut savoir que l'instruction en famille, elle peut être faite soit par le parent, soit par quelqu'un d'extérieur de choisi, en fait. Donc déjà, si le parent a une difficulté par rapport à ça et préfère choisir quelqu'un d'autre, c'est possible. Mais effectivement, ça demande à revoir pas mal de choses, à avoir vraiment un engagement sérieux. Mais encore une fois, par exemple, dans le film de Clara Bellard, on voit aussi des personnes qui travaillent à plein temps, etc., et qui arrivent en fait à le faire parce que leur mode de vie le permet, et parce que aussi... dans l'instruction en famille, souvent les apprentissages autonomes sont privilégiés. Et on va dire l'instruction plus formelle ou quand il faut être là, etc., dure en fait moins longtemps vu qu'on est seul à seul avec un enfant ou plusieurs. Mais en tout cas, c'est, je dirais, toujours en fait un choix réfléchi. Voilà, nous, comme je l'ai dit, on ne s'en sentait pas capable. J'aimerais pouvoir le dire aux gens. En fait, on n'a pas besoin de se sentir capable vraiment. On a besoin de faire un choix réfléchi. Et ensuite, en fait, on se donne les moyens au fur et à mesure. On n'est pas obligé de le faire tout seul, quoi.
Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'un parent peut vraiment s'épuiser ?
Je pense que j'étais plus épuisée quand je bataillais pour mettre mon fils à l'école. C'était vraiment galère, le soir c'était galère, la nuit c'était galère. Mais pour ça, je pense vraiment que quand on se lance, donc s'il y a des parents encore qui veulent se lancer ou quoi, trouver tout de suite en fait une association ou un réseau en fait. Et maintenant sur Facebook, il y a aussi des groupes de parents d'instruction en famille d'Alsace, etc. Et se retrouver. Donc nous, on fait des sorties... par exemple, toutes les semaines, dans des parcs de jeux, etc., pour se retrouver, pour souffler. Alors souvent, c'est des mamans, mais ça peut aussi être des papas, et que les enfants se voient, qu'on souffle. En fait, il y a vraiment besoin de ce lien quand même. Donc, je pense vraiment que quand on se lance là-dedans, il faut qu'on se crée un réseau, qu'on ait des rencontres, qu'on fasse des activités. Moi, dans ce que j'aime aussi faire, c'est dire, mon fils, il est intéressé par le miel, par exemple, je vais appeler un apiculteur et on va y aller ensemble. Ça nous fait une sortie sympa. Ça me permet de me détendre aussi. Et il y a quelqu'un d'autre qui prend en charge, on va dire, l'apprentissage ou qui montre les choses. Donc, c'est possible, en fait. Vraiment, c'est possible. Et c'est pas, à part si on fait du vraiment scolaire, c'est pas la tonne de travail qu'on s'imagine, en fait. Mais voilà, ça demande aussi des sacrifices, comme tout.
Votre mot de la fin ?
Nous voulons garder vraiment cette liberté, en fait, d'instruire nos enfants en famille. Et on veut aussi vraiment que cette liberté puisse être accessible à d'autres, s'il y a besoin. En fait, je me dis que si l'État veut vraiment rendre l'école obligatoire, il faudrait aussi mettre les moyens au niveau pédagogique, au niveau pédagogie alternative, etc., qui souvent peut sauver des enfants aussi en difficulté. Ah oui, la petite anecdote, il y a beaucoup de professeurs et d'instituts qui font l'instruction en famille. Et j'en connais dans le réseau ici, il y en a, qui demandent des moyens, qui demandent des choses pour que ça se passe mieux. Donc voilà, on voudrait garder cette liberté et puis on voudrait... on a le même objectif que l'État et que l'éducation nationale, c'est d'avoir des enfants épanouis avec des valeurs de la vie, en fait, tout simplement, des bonnes valeurs, une confiance en eux, etc. Voilà.
Merci Noémie.
Merci.
C'était Rencontre solidaire sur Phare FM à Guenaud-Wissembourg avec Noémie, une maman qui fait l'école à la maison. Retrouvez l'interview en replay sur pharefm.com/aguenaud ou sur notre page Facebook.
Phare FM Aguenaud 92.5.